Sans réserve, le balado.
La situation au Nord-Ouest, c'était comme mon attaque de cœur, mon accident de dos. C'est ça qui m'a vraiment donné une chance de percer dans une différente direction. La première fois qu'un Autochtone me reconnaissait comme Autochtone, c'était comme un poignard dans le corps et dans le cœur en particulier. Je partais à pleurer. Je pleurais pour tout le monde dans la famille parce qu'il fallait tellement qu'on reste caché. Je me suis donné une promesse et je me suis dit plus jamais que je vais me cacher. Bâtir le canot, c'est pas l'idée de juste bâtir le canot, c'est juste utiliser un véhicule pour passer des messages.
Voici un tour d'horizon dans la vie de Christian Pilon.
Moi, je veux rendre hommage à mon côté autochtone puis mon côté non autochtone aussi. C'est pas une question de choisir. Le choix a déjà été fait pour moi. C'est comme ça que j'ai été créé. Si je veux rendre hommage, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Je suis né à Ottawa, mais à l'âge de 6 mois, j'ai déménagé. J'étais rendu à Chelmsford, à Zilda. On connaît ça comme Rayside Balfour, mais à Zilda, c'est vraiment le petit village où j'ai grandi, qui est à l'extérieur de Sudbury. Fait que j'ai grandi dans le nord d'Ontario. Je viens d'une famille de chasseurs et de pêcheurs. Puis nous autres, on n'était pas loin du lac, fait que beaucoup, beaucoup d'activités par rapport au lac. On avait un canot. On allait souvent sous l'eau, puis même que j'ai appris que de partir de l'âge de 3 mois, j'étais dans le canot avec mes parents pour faire du canot camping. Donc, ça donne une idée de l'importance pour moi, l'eau, le canot, mais aussi la nature. On se cachait du fait qu'on était métis, on n'en parlait pas souvent. On en parlait quand on était tout en famille, puis la réalité, c'est comme bonne famille francophone quand même. La boisson joue un rôle, puis ça célébrait jusqu'à 5 heures du matin, puis... Mon arrière-grand-mère, où est-ce que c'est que j'allais la voir, ma mère guidée. Puis, quand j'ai demandé voir ce qu'on était un petit peu sauvage, ben là, ça choquait, mais elle racontait toutes les affaires quand on avait eu assez dans le corps, on me faisait assis sur son genou. Puis, c'est une façon que j'ai appris notre histoire. Malheureusement, ça prenait ça pour être capable de parler du fait qu'on était sauvage. Mais autrement, on n'en parlait pas. Peu importe ce que j'apprenais, j'avais pas le droit d'en parler. Là, je reste tranquille. Quand mon arrière-grand-mère est morte, tout le monde a tourné vers moi parce que c'est moi qui avais les histoires.
Les membres de la famille ont commencé à poser des questions. Puis ceux qui sont ouverts, ceux qui veulent apprendre la culture, je prends le temps avec eux autres. Puis surtout pour les plus jeunes, les enfants de mes cousins et mes cousines, puis les petits-enfants aussi. Puis toutes les fois qu'ils me voient, tu sais, ah, c'est mon oncle Christian, good, on s'en va dans le bois, venez-vous-en. On va aller apprendre des affaires, on va passer du temps. On va les découvrir. Puis en même temps, c'est là ce que c'est que je leur glisse les enseignements aussi. C'est le fun chez nous parce que mes oncles ont toujours été les conteurs d'histoires. Ils racontaient à propos de le loup-garou, puis ils faisaient... L'un qui racontait, l'autre faisait des sons, l'autre brassait des branches. Puis, tu sais, j'ai toujours ça comme exemple. Puis j'avais aussi mon père que à l'église, il était en avant, puis il lisait la lecture. Puis pour moi, je faisais « Wow, le monde l'écoute, c'est impressionnant. » Ça, depuis un jeune âge, j'ai toujours eu l'importance de raconter une histoire. Puis que tout le monde a une histoire à raconter aussi. Ça, c'est pour ça que je garde l'information, puis j'utilise ça, puis je la partage par la suite.
Mon école a été faite dans la région de Sudbury, justement. Ensuite de ça, j'allais à Toronto pour travailler. Puis, différentes choses. Je me suis retrouvé à Ottawa. Je travaillais avec des avocats et des médecins. J'étais dans un bureau. Puis, franchement, j'étais malheureux. Je faisais tout ce que je pouvais faire pour me garder occupé, quoi que ce soit, mais c'est difficile. Ça ne marchait pas bien. Dans l'événement de Destination Nord-Ouest, il y a bien des choses que j'ai compris. Premièrement, on retourne aux instincts, hein. On mange, on dort, et puis on avance. C'est aussi simple que ça. Tous tes sens, ils deviennent vraiment aigus. J'étais déjà quand même, on va te connecter ou enraciner avec la terre, d'après mes expériences de jeunesse, mais c'est ça qui me manquait en ville. Ça fait que ça, ça l'a vraiment réveillé, cette partie-là.
Aujourd'hui, je connais qui ce que je suis, je connais mes racines, puis je connais comment partager aussi. Mais dans le temps, c'est très difficile. Puis comme métis, veut pas, on a un pied dans les deux mondes, on est souvent accepté et renié des deux côtés, right? Je suis trop blanc ou je suis trop indien. C'est ça qui arrive. Mais quand je suis dans la forêt, je suis confortable. Là. C'est là où c'est qu'on se fait pas juger. On est vraiment confortable. Puis, qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir passé du temps avec mon mentor, Marcel Labelle.
Quand on avait tourné avec Destination Nord-Ouest, on a arrêté à Mattawa. Puis, Mattawa, c'est dans le nord de l'Ontario. C'est là où c'est que la rivière Kitchissippi, le nom original de la rivière du Saouet, rencontre la rivière Mattawa. Puis en tournage, on voit un monsieur Labelle, dont le père est Marcel. Il est venu nous jaser un petit peu parce qu'il bâtissait des canaux d'écorce.
Quelques années après, j'ai commencé à faire des présentations. Je voulais vraiment partager la culture. Ça fait qu'à un point, je me retrouve à Mattawa. Puis une dame qui est là, son nom c'est Diane, Diane Labelle. Puis elle vient se présenter. Puis elle dit, tu connais mon père, tu l'as rencontré dans ton émission. Elle dit, va le voir, il est pas loin, il est avec mon frère, puis il bâtit un canot d'écorce, je pense que t'aimerais ça. Fait comme de raison, j'étais faire un petit tour. Moi, dans ma tête, je pensais 10-15 minutes, puis je prends la route, là, j'ai 3 heures à faire pour arriver à Ottawa, moi, là. Fait qu'on s'assit, puis on commence à jaser, puis jaser, puis jaser. Ils m'emmènent dans la cave, ils me montrent tout leur trapage, parce que c'est des trappeurs aussi, puis on a réalisé qu'on est connecté avec la famille Labelle, par Asilda aussi, puis on est connecté sur bien des différents points. Puis je me souviendrai toujours, quand j'ai quitté, je reculais l'auto, puis Marcel est arrivé, il est venu me voir. Puis il dit, une minute. Il laisse la fenêtre, puis il dit, un jour, moi puis toi, on va travailler ensemble. Puis moi, j'ai dit, OK. Je sais pas d'où ça venait, mais OK. Puis le temps avance. J'ai continué à faire des expéditions en canot d'écorce avec les gens avec qui j'ai fait le voyage de destination Nord-Ouest. Il y a une année, j'étais pas capable, je me suis décidé, bon, à place de casser les canaux, là, puis essayer de figurer comment les réparer, là, je vais apprendre comment le faire. Puis je connais des artisans de canaux d'écorce. Il y en a. Mais moi, je suis plus intéressé à savoir le côté spirituel.
C'est Marcel Labelle. Il me venait à l'idée. Fait que je l'ai appelé, on s'est rencontrés, lui a offert du tabac, on s'est parlé pour le vrai. Puis moi, en bout de ligne, j'ai dit, je vais tout apprendre à propos de canaux, mais surtout le côté spirituel puis culturel. N'importe quoi d'autre, tu veux me partager, ça me ferait plaisir d'apprendre. En 2010, on a bâti un canot de 26 pieds ensemble pendant quasiment 9 mois de temps. Presque, j'ai resté avec lui dans une tente roulotte sur le terrain d'une école secondaire. Puis, de temps en temps, on allait à la réserve rencontrer un de ses elders, un de ses teachers aussi. So, j'apprenais là, puis j'ai fait bien des fautes. J'ai appris bien des choses. Puis une fois que le canot est fini, là, il vient voir le canot, puis il est capable d'étudier le canot pour voir où est-ce que je suis présentement dans ma vie. Là, on peut déterminer la personne avec le travail qu'ils font, leur DNA est toujours dedans, la pièce d'œuvre qu'on fait. Puis suite à ça, moi et Marcel, on a travaillé ensemble beaucoup, beaucoup. Une des promesses que j'ai dû faire avec lui, c'était que j'apprends qu'est-ce que je peux, puis que je peux redonner à ses enfants, ses petits-enfants et ses petits-petits-enfants. Parce qu'il voulait que quelqu'un à l'extérieur de la famille puisse apprendre, puis le garder, puis le transmettre par la suite. Nous autres, on explique ça comme ça. Un gros, gros, gros canot. On enseigne la communauté, parce que ça prend une communauté pour la faire avancer. Un canot normal, c'est-à-dire, on va dire, 14 pieds à 16 pieds, c'est un canot familial. Donc, on apprend l'importance de la famille. Un canot individuel, c'est 8 à 10 pieds, ça t'apprend à propos de toi-même. Puis un mini canot, un petit canot de 3-4 pieds, t'apprends à propos de l'enfant à l'intérieur de toi.
À la cérémonie comme telle, on amène le canot à l'eau. C'est pas un baptême, c'est pas ça du tout, mais c'est l'important de... Chiman veut dire canot, mais Chiman veut dire... Pucker up, pucker, embrasser ou marier l'eau. Ça fait qu'une mise à l'eau, c'est vraiment marier tout les éléments ensemble, c'est ça que c'est. Ça fait qu'à la mise à l'eau, j'ai tendance à chanter une chanson. J'ai différentes chansons que j'utilise, mais la dernière que j'aime beaucoup, c'est The Longest Walk, qui est une chanson essentiellement de revendication qui a été créée dans les années 60 au sujet des droits des êtres humains. Puis quand je la chante, je m'assis dans le canot, j'étais dans le milieu du lac. Et je me laisse aller.
Comme métisse, je veux pas faire partie d'une bande particulière parce que les métisses, c'était les hommes libres. Puis mon territoire, c'est où est-ce que les cours d'eau y vont. Pas compliqué, c'est comme ça qu'on voyageait. Ça a toujours été de même. Où est-ce que le canot peut aller? J'avais des ancêtres un peu partout. Puis moi, j'ai toujours dit, depuis que je suis jeune, là, je le comprends plus, mais j'ai toujours dit, ma maison, c'est là où est-ce que c'est que je couche puis je dors ce soir. Mon nom spirituel qui m'a été donné, c'est Breaker of Siege. En français, briseur de siège, mais pas un siège fantastique, mais bel et bien un siège culturel. Le nom spirituel, ça l'explique qui ce qu'on est puis qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi notre personnalité? C'est qui ce que je suis? Il faut que je pousse pour défendre ceux qui sont pas capables de défendre. Fait que oui, je vais continuer d'allumer la flamme. Puis il y a des moments que ça va brûler plus fort que d'autres. Il y a des moments où il va falloir que j'aie me ressourcer puis prendre un temps. Mais je me vois aussi vraiment être capable de léguer puis passer le flambeau à la jeunesse aussi. Commencer à les ressourcer, les aider, les supporter aussi en même temps. Fait que c'est important. Il y a trop de gens qui font... Moi, j'ai cette connaissance-ci, je la garde pour moi, c'est le pouvoir. Ça, c'est vraiment la façon coloniale de penser. Nous autres, c'est, je vais t'apprendre comment faire ça, puis toi, tu vas apprendre comment faire ça, puis toi, je vais t'apprendre les ribs, les racines, puis toi, tu vas faire le cèdre. Puis là, si je meurs demain, vous êtes obligés de venir ensemble pour bâtir le canot. Vous ne pouvez pas le faire individuellement. Ça bâtit nos communautés pour qu'ils soient plus fortes.
Sans réserve, le balado est une production d'Animikissi Digital Production en collaboration avec les productions Mustang. À la réalisation, Sandy Pinteus. À la gestion et au contenu, Marie-Josée Baudreau.